La voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, Sportrama, ce sera avec Nicolas Pineau. Mais tout de suite, un bulletin d'information. Encore 48 heures au Burundi pour se faire enregistrer en vue des élections. Officiellement, la commission électorale assure que les opérations se déroulent selon les prévisions, mais l'opposition et la société civile continuent de demander l'arrêt du processus. Elles dénoncent notamment des fraudes et l'incapacité de la CENI à créer une liste crédible. Frédéric Bamvugi Numvira est le vice-président du Frodebu, le parti d'opposition burundais.
Notre préoccupation, c'était qu'on puisse soit arrêter le processus et trouver pratiquement le modus vivendi. Ça, c'était notre choix. On accuse pratiquement la CENI, on accuse les CEPI, les CFI, comme quoi ils ne sont pas à mesure de répondre aux préoccupations des Burundais par rapport à cette question du confectionnement du fichier électoral. Parce que si le fichier est faux, et il va être faux, les partis de l'opposition ne vont pas accepter un faux fichier qui va conduire aux fausses élections. Il est très clair. De toute façon, nous sommes en train de produire toutes les erreurs rencontrées sur le terrain et les porter à la connaissance de tout le monde, à la CENI, à la présidence de la République, à la région, pour que tout le monde sache les erreurs commises. Parce que, visiblement, la CENI ne peut pas, n'est pas capable d'apprécier l'erreur commise, le niveau d'erreur. Et pour autant que c'est comme cela, il ne va pas nous donner un fichier crédible. C'est ça le vrai problème.
Frédéric Bamvugi Numvira du Frodebu joint par Nicolas Pineau. En Ouganda, le président Yoweri Museveni affirme que son peuple refuse son départ de la présidence. À chaque fois que je me présente aux élections, ils sont 5 millions à me demander de ne pas partir, a-t-il déclaré lors d'une émission de radio citée par l'AFP. Yoweri Museveni à la tête du pays depuis 28 ans. Il a su ne pas être avide du pouvoir et promet de répondre aux désirs de son peuple. En Égypte, 71 étudiants de la prestigieuse université d'Al-Azhar vont être jugés. Ils sont accusés, selon le procureur de la République, d'appartenir à la confrérie interdite des frères musulmans et d'avoir participé à des rassemblements illégaux. À noter aussi que le Canada a fermé son ambassade ce lundi au Caire. Des raisons de sécurité sont évoquées par les services consulaires, de même que l'ambassade de Grande-Bretagne qui est restée fermée pour une deuxième journée consécutive.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Hors du continent, les ministres des Affaires étrangères de la Syrie et de l'Iran ont condamné les frappes aériennes menées par Israël près de Damas, disant que c'est une agression. Les frappes n'ont fait aucune victime selon la télévision d'État syrienne. L'État hébreu n'a pas confirmé la nouvelle. Les agences humanitaires des Nations Unies ont lancé un appel de fonds ce lundi à Genève pour un montant record de 16,4 milliards de dollars afin d'aider 57,7 millions de personnes en 2015. La crise syrienne qui dure depuis 2011, va absorber près de la moitié de l'aide. Le Soudan du Sud est la seconde priorité. Les autres crises majeures sont la République centrafricaine, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, la Birmanie, les territoires palestiniens occupés, la Somalie, le Soudan, l'Ukraine et le Yémen. L'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, Patrick Gaspard, a déclaré que son gouvernement n'était pas au courant de négociations pour la libération d'un otage sud-africain tué samedi lors d'un raid américain au Yémen, selon le diplomate. Washington ne savait pas non plus que l'enseignant sud-africain Pierre Corky était détenu au même endroit que le journaliste américain Luke Somers, dont la libération était l'objectif de la mission ratée. Les deux hommes, Corky et Somers, ont été tués par leur ravisseur, a-t-on appris de sources officielles. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, place à Sportrama.
Bonsoir à tous, un grand plaisir de vous retrouver ce soir sur les ondes de VOA Afrique. C'est Sportrama comme tous les lundis soirs, 19h temps universel. pour parler bien évidemment de l'actualité sportive de ces derniers jours. Ravi de vous retrouver, vous le savez comme chaque soir, dans notre émission Les Résultats, les Analyses et vos commentaires, chers auditeurs, bien sûr sur notre page Facebook VOA Afrique, mais nous attendons également vos appels en direct, le numéro 001 202 619 31 40, Michel Joseph qui sera là pour répondre à vos appels. Et avec nous ce soir, c'est une habitude, nos consultants. À Libreville, on va saluer Jules Valentangoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va faire un grand coucou au Bénin, Boïcon, Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bienvenue au Bénin.
Allez, vous êtes évidemment sur VOA Afrique. On va évidemment parler de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui se joue en Guinée équatoriale. Ce sera le mois prochain. Et la semaine dernière, la décision est tombée depuis Malabo. Le tirage au sort. On connaît désormais le sort des 16 équipes qui sont qualifiées pour cette phase finale. Alors, cette CAN s'annonce évidemment très ouverte. On le rappelle avec le Nigeria champion d'Afrique 2013 qui ne défendra pas son titre puisqu'il a été éliminé en phase de poule, ne sera pas également du voyage l'Égypte, l'un des ténors africains. Messieurs, on va parler évidemment de ces groupes, on va les décortiquer, on va entendre les réactions et surtout vos analyses. Commençons par le groupe A, celui du pays organisateur, le Nzalang National, la Guinée équatoriale, qui s'est qualifiée de justesse après le retrait du Maroc pour cause d'Ebola. Dans ce groupe A, on a évidemment deux équipes favorites qui sont le Gabon et le Burkina Faso qui ne se quittent plus, puisque les deux équipes ont joué ensemble, les Panthères et les Étalons, c'était lors des éliminatoires. On aura également, on va noter, le retour du Congo, le Congo-Brazzaville, qui n'a pas fait finalement participation dans une CAN depuis 1990. C'est grâce notamment au sélectionneur Claude Leroy. Le sélectionneur Claude Leroy que je vous propose d'écouter tout de suite.
C'est du bonheur d'être qualifié pour une Coupe d'Afrique des Nations après 15 ans d'absence. Et pour ces jeunes joueurs qui n'ont jamais connu la Coupe d'Afrique des Nations, qui l'ont su quand ils étaient même pas adolescents, enfants, presque sortir de l'âge des couches maternelles pour retrouver cette Coupe d'Afrique des Nations en faisant le match d'ouverture, c'est une chance extraordinaire. Donc maintenant, on va essayer d'être digne de cette compétition. On va essayer de bien jouer au foot et d'être exemplaire dans le comportement.
Voilà, c'était Claude Leroy, le sélectionneur évidemment des Diables Rouges du Congo-Brazzaville. 8e CAN pour Claude Leroy en tant que sélectionneur. Jules Valentangoué, sur ce groupe, votre sentiment, on ne se trompe pas, les Étalons, vice-champions d'Afrique, et les Panthères gabonaises qui sont a priori un petit cran au-dessus, mais il faudra se méfier des Congolais, c'est un peu ça?
Oui, il faut le dire, c'est les deux nations émergentes du football africain actuellement et qui dont la qualité collective est incontestable. Ils seront des outsiders tout sérieux d'ailleurs pour le titre continental. Mais le Gabon en particulier, je crois, avec l'impréparation de la Guinée, va jouer sans pression sur ses terres parce que c'est en Afrique centrale. Il faut le dire, cette poule, c'est la poule des pays de la CEMAC et le Gabon en profitera à fond. Et cette deuxième tentative, après 2012, risque d'être plus porteuse d'espoir pour lui.
Oui, Élisée Oumpatine, on a envie de dire que le Gabon va jouer à domicile. Jules Valentin le rappelait, co-organisation de l'édition 2012 avec la Guinée, justement. Élisée, quelles sont les chances, selon vous, de cette équipe congolaise? Évidemment, on a suivi depuis 2-3 saisons le parcours de Dolizy, notamment pour les Congolais. Vous pensez que ces Diables Rouges peuvent créer la surprise, comme ils l'ont fait en éliminant à distance le Nigeria?
Oui, les Diables Rouges peuvent créer la surprise, mais ce serait très difficile, puisque dans un groupe-là, on aura une équipe équatoriale et guinéenne, c'est vrai, qui ne s'attendait pas trop à cette participation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ce serait très difficile, vu aussi le niveau de deux grandes formations qu'on a connues durant les éliminatoires. Il s'agit du Gabon, tu l'as dit tantôt, qui va certainement évoluer à domicile, puis qu'il y a quelques kilomètres seulement qui séparent la Guinée au Gabon, deux pays frontaliers d'ailleurs. Le Burkina Faso, c'est la dernière Coupe d'Afrique des Nations, va voudra tenir son rang dans ce groupe-là. Et tout compte fait, on aura deux places seulement pour quatre formations, puisque ces quatre formations vont se batailler très fort juste, soit la troisième et dernière journée des matchs de poule. Ça sera très difficile pour le Congo-Brazzaville. Et si on écoute bien Claude Leroy, il a dit, les 16 joueurs n'ont pas l'expérience qu'il faut pour cette compétition, ce sera très difficile. Et encore que là, il ne s'agit pas des éliminatoires, c'est la compétition proprement dite, ce sera très difficile, mais il faudra aussi compter sur un sélectionneur très expérimenté qui connaît bien sûr le football africain. Donc on ne peut pas négliger aussi Claude Leroy qui va essayer d'amener tout au moins cette sélection au second tour.
Merci beaucoup, Élisée. On va évidemment entendre le camp burkinabé. On le disait, vice-champion d'Afrique, les Burkinabés qui s'étaient inclinés lors de la finale face au Nigeria. On écoute le président de la fédération, Sita Sangaré, qui explique que jouer face à la Guinée équatoriale chez elle n'est pas forcément un désavantage.
C'est une bonne chose de pouvoir jouer dans le groupe du pays organisateur, parce qu'il ne faut jamais oublier que le football, c'est avant tout un spectacle. Et le pays organisateur évoluant devant son public, cela garantit une certaine ferveur populaire et toute chose qui est bien pour le public sportif qui aura droit à un spectacle. Maintenant, j'espère que ce spectacle sera de qualité. Quant au Congo-Brazzaville et au Gabon, c'est de vieilles connaissances du Burkina. Nous avons joué contre le Gabon tout de suite pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Congo-Brazzaville, nous l'avons affronté lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et donc, nous ne sommes pas en territoire inconnu. Nous allons certainement nous préparer pour être fin prêt pour le début de la compétition.
Voilà, c'était Sita Sangaré, le président de la Fédération de football. On va parler du groupe B avec beaucoup de commentaires sur la page Facebook pour les Léopards qui se sont qualifiés, les Léopards de la RDC en tant que meilleur troisième. On va prendre tout de suite un appel depuis la RDC. Bonsoir. Alors, oui, alors justement, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe B? On le rappelle, le Cap-Vert, la Tunisie, la Zambie et la RDC. Quelles sont les chances, selon vous, des hommes entraînés par Florent Ibengué?
Bien sûr, moi, je m'appelle Damas au niveau de la RDC à Lubumbashi.
Oui, le Katanga qui est avec nous ce soir.
Parlant de notre groupe, je vois la RDC aller jusqu'en Finlande. Il n'y a aucune équipe qui nous essaie là-bas.
Oui, on a des petits soucis pour vous entendre. On va essayer de vous garder, d'améliorer la ligne. Peut-être Jules Valentin Gouet, dans ce groupe B, les Chipolopolo de Zambie, hein, vainqueur du tournoi 2012. La jeune équipe tunisienne hein, qui a réussi, évidemment, après une victoire au Chan, à finalement se qualifier en éliminant notamment l'Égypte. C'est un groupe beaucoup plus ouvert qu'on le croit, hein, ce groupe. Hein.
Oui, c'est le groupe le plus ouvert. Nous avons des équipes qui produisent du jeu, dont on aura du spectacle. Mais il faut dire aussi qu'il y a certaines rencontres qui sont des retrouvailles. Et dans les retrouvailles, souvent le jeu est fermé. C'est le cas entre la Zambie et le Cap-Vert et bien sûr le grand derby entre la RDC et la Zambie. Mais sinon, je crois que la Tunisie en particulier, qui présente une opposition de style à chaque match et qui a les qualités collectives, la variété de jeu et la culture tactique et même la malice nécessaire, peut être un des leaders peut-être de ce groupe en attendant que peut-être une des trois autres équipes nous présente le deuxième qualifié.
Merci beaucoup, messieurs. On va à présent peut-être écouter Florent Ibengué, le sélectionneur de la RDC, qui répondait à notre radio partenaire à Kinshasa, Top Congo. On écoute Florent Ibengué.
Un groupe équilibré avec trois équipes qui sont a priori au-dessus de nous. La Tunisie qui semble être favorite, mais pas avec une grande longueur d'avance, puisque le Cap-Vert fait partie des pays qui se sont qualifiés très tôt dans la compétition. Ils sont en train de monter en puissance avec une équipe très homogène et talentueuse. Et puis il y a la Zambie qui a une expérience de victoire très récente. Donc un groupe homogène parmi ces trois-là, et puis un novice qui est la RDC, donc qui fait office de petit poussé. Donc un groupe qui sera très relevé pour nous, qui sera difficile à jouer, mais on a l'envie et puis la volonté d'embêter tout le monde et d'accrocher une des deux premières places. C'est-à-dire que on sait que les adversaires qu'on a sont forts, ils sont a priori plus forts que nous, mais on va pas se présenter comme de la chair à canon pour l'adversaire. On va y aller pour donner le meilleur de nous-mêmes et puis battre nos adversaires, tout simplement avec cet état d'esprit-là.
Voilà, c'était Florent Ibengué, le sélectionneur des Léopards de la RDC, qualifié pour cette CAN 2015, on le disait, au titre de meilleur troisième. Alors, c'est peut-être intéressant, Élisée Ongpatine, vous pensez-vous que les Requins Bleus qui avaient brillé, on se souvient, à cette CAN 2013, hein, c'était magnifique ce qu'ils avaient fait, est-ce que vous pensez que, évidemment, après leur beau parcours en éliminatoire, aux côtés de la Zambie notamment, est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir aller aussi loin qu'en 2013?
Bien évidemment, puisque on a vu cette équipe lors de la dernière des Nations, et surtout lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, si le sélectionneur n'avait pas aligné un joueur qui était sur le coup d'une suspension, eh bien, imaginons que cette équipe capverdienne sera face à la Tunisie, va prendre plutôt la place de la Tunisie et peut viser d'aller très loin, pourquoi pas de se qualifier pour la Coupe du Monde qui a lieu au Brésil maintenant en force. Fort de ça là, les requins bleus vont essayer de se qualifier pour le tout souvent. C'est vrai, cette équipe connaît bien la Zambie puisqu'elle a terminé première devant cette équipe zambienne, maintenant la Tunisie. N'oublions pas, surtout cette équipe tunisienne qui s'est qualifiée devant une grande formation sénégalaise et surtout l'Égypte. Donc ce serait très très difficile, mais cette équipe capverdienne, pour moi, a pratiqué un très bon football durant les éliminatoires avec des joueurs qui évoluent surtout au Portugal et en France. C'est dire que le sélectionneur connaît bien sûr cette formation, cette Coupe d'Afrique des Nations, surtout pour avoir pris part au moins à une seule reprise. C'est dire que ce serait très ouvert dans ce groupe pour les Cabédiens, mais ce n'est pas encore gagné d'avance.
Allez, on va parler du groupe C. Sortez les fusils, sortez l'armada. Hein. C'est vraiment le groupe de la mort, comme on l'appelle, avec, tenez-vous bien, les Black Stars du Ghana, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Sénégal. C'est du lourd, c'est du très très lourd. Certains estiment déjà que les deux équipes qui sortiront de ce groupe pourront aller très très loin dans la compétition. Léger avantage évidemment à l'Algérie, première nation africaine au classement FIFA. Les Algériens qui se sont qualifiés jusqu'en huitième de finale lors de la belle Coupe du Monde qui s'était en 2014. Évidemment, cette année, c'était au Brésil, on s'en souvient. Pour parler de ce groupe de la mort, on a le plaisir d'avoir en ligne depuis Dakar, Mamadou Ouribari, l'un de nos auditeurs. Bonsoir.
Oui, alors, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Alors, évidemment, Mamadou, Guinéen, mais vous vivez au Sénégal, donc les Lions de la Teranga, vous connaissez, le stade Léopold Sédar Senghor. Est-ce que vous pensez que cette équipe, qui est maintenant entraînée par Alain Giresse, va pouvoir au moins sortir des qualifications? Après, on va le dire, 3-4 années un peu difficiles pour le football sénégalais.
Oui, absolument, absolument, Nicolas. Bon, comme tout le monde le parle, l'air poule où se trouve le Sénégal, c'est vraiment une poule qui est très, très difficile sous les yeux de tout le monde. Mais moi, à mon avis, connaissant les Lions de la Teranga et vu leur performance pendant les qualifications, je suis persuadé que les Lions de la Teranga passera dans cette poule.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir appelé depuis Dakar, Mamadou. L'avis de Jules Valentin Goué, c'est du très lourd, hein, évidemment, entre les Black Stars et les Algériens qui sont des habitués de la Coupe du Monde et justement ces Sénégalais et ces Sud-Africains. Quel est votre avis sur ce groupe, Jules Valentin?
Oui, ça c'est un casting de demi-finale, c'est clair. Mais et seulement dans cette poule de la mort, il y a quand même des petits bémols à mettre. L'Algérie est l'équipe en forme du moment et cherchera à défendre son rang, elle en a les moyens. Mais il faut voir si elle pourra se battre avec ses moyens en déplacement, comme ce fut le cas pour l'Égypte au Burkina en 1998. Et de l'autre côté, le Ghana me paraît un peu moins en forme, il aura le soutien du public. Et pour son jeu à la brésilienne, c'est ce qui arrive souvent en Afrique subsaharienne. Mais à ce jeu-là, l'Afrique du Sud actuelle me paraît encore plus solide et plus brillante. Et elle a fait tellement plaisir à tout le monde pendant les éliminatoires. Le Sénégal, oui, et l'équipe a atteint une maturité collective impressionnante. Et sur le plan tactique, elle est rodée. Et puis, c'est une équipe solide, avec un bloc très solide, qui aura à jouer contre des équipes qui aiment utiliser le ballon. Et c'est ce genre d'adversaire que le Sénégal aime rencontrer pour le contrer dans son jeu en profondeur. Je crois que là, carrément, il n'y a pas de pronostic à faire, même si mon coucou va en direction du Sénégal.
Alors on va parler du groupe D, hein, qui a des saveurs très ouest-africains, évidemment, puisque, tenez-vous bien, la Côte d'Ivoire sera opposée à la Guinée, au Mali et au Cameroun. Là encore, deux équipes qui étaient dans les mêmes groupes éliminatoires qui se rencontrent. Avant de vous entendre, on va écouter l'avis d'un ancien international ivoirien. Il s'agit du gardien Alain Gouaméni.
La Côte d'Ivoire, je veux que des derbys. Des derbys, parce que je veux comme le Mali, c'est un derby. Comme la Guinée frontalière, la Guinée frontalière à la Côte d'Ivoire, c'est un derby, comme le Mali. Et le Cameroun, l'éternel rival de la Côte d'Ivoire. Donc, ça va être des matchs difficiles, des matchs durs, terribles moralement. Il fallait vous retenir pour aller vous passer la première phase. Je me dis que l'équipe qui va arriver au meilleur moment dans la compétition passera. Pour le moment, on a eu une qualification chaotique, comme vous l'avez dit. Et c'est le jour J. Ça a pas eu du mois de janvier, quoi. À partir du 17-18 janvier, l'équipe sera bien préparée. Je pense qu'elle passera le premier tour. Non, mais je ne me fais pas soucier pour la Côte d'Ivoire. C'est dans ces conditions que nous sommes souvent très, très, très forts.
Voilà l'ancien international ivoirien, évidemment, Alain Gouaméné. On le rappelle, hein, les éléphants d'Hervé Renard opposés aux aigles du Mali, aux lions indomptables du Cameroun, désormais orphelins de Samuel Eto'o et de la Guinée. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, mais comme on l'a vu lors des éliminatoires, le Cameroun revient très fort depuis le cauchemar qu'avait été la Coupe du Monde au Brésil. Pour en parler, on est en ligne depuis Berlin, en Allemagne, avec un supporter camerounais, Edouard Bessong. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, on s'est eu avant l'émission, vous m'avez dit, mais tout le monde parle des autres équipes et en fait, sans bruit, le Cameroun se refait une santé et marche plutôt fort. C'est un peu votre avis?
Oui, justement, parce que quand je lis un peu des gens, comme bon, heureusement, j'apprécie bien l'ancien international qui vient de parler. Lui, il a parlé un peu propre. Mais quand je lis tout ça, je ne vois personne qui met le Cameroun favori. C'est ça qui m'a un peu gêné. Et puis, oui. Vu la prestation de ces jeunes aux éliminatoires, je n'ai vu personne, personne. Et puis, on ne les met même pas favoris. Alors, moi, je vois ces jeunes-là prendre une cinquième étoile sur cette CAN. Je les vois venir, je les ai même déjà vu remporter cette finale parce que je les vois très déterminés. C'est plus, c'est un lion qui était en veille. Et maintenant, je crois qu'il est là et puis il va se faire parler de lui. Les jeunes-là aussi ont besoin de prendre une autre étoile à leur niveau. Parce que certains ne savent même pas quand ils prenaient la quatrième.
Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Merci de votre avis, Edouard. Vous étiez en Allemagne. Il y a un autre auditeur qui nous appelle du Bénin cette fois, lui aussi. Il est béninois, mais il est supporter camerounais. Il s'agit de Guy. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, vous aussi, hein, vous nous avez dit avant l'émission, moi, je soutiens le Cameroun.
Oui, moi, je soutiens le Cameroun, parce que le Cameroun d'aujourd'hui n'est pas le Cameroun d'hier, hein. Je crois que les jeunes se sont bien formés pour ce match-là, pour la CAN. Bon, voilà, je sais que le Cameroun doit prendre le couple-là. Moi, je supporte fortement le Cameroun.
Eh ben, merci beaucoup, Guy, de nous avoir appelé depuis le Bénin. On va poser la question à Élisée Oumpatine. Élisée, justement, est-ce que ce n'est pas un avantage pour les Camerounais qui ont longtemps été mis sous les feux de l'actualité ces 6 derniers mois pour de bien mauvaises raisons? Est-ce que ce n'est pas un avantage d'arriver un peu, peut-être pas parmi les favoris dans cette CAN?
Ouais, c'est mieux pour les lions indomptables, puisque depuis bon nombre d'années, on se rend compte que la Coupe d'Afrique est souvent remportée par des équipes qui ne sont pas annoncées favorites. Donc c'est une chance pour le Cameroun, encore que la Guinée équatoriale se trouve à côté du Cameroun. Les Camerounais auront bon nombre de supporters. Et ce sera une Coupe d'Afrique des Nations qui sera très ouverte, hein, surtout hein, pour les équipes qu'on annonce favorites. Maintenant, l'autre chose, c'est d'avoir des joueurs qui seront compétitifs, puisque espérons que des joueurs ne soient pas blessés, surtout puisque on a tendance à oublier cela, l'épidémie Ebola, que les clubs européens ne retiennent pas ces joueurs professionnels pour qu'ils puissent venir nous montrer du très bon football. Mais les Camerounais peuvent s'en sortir, pourquoi pas aller très loin. C'est un groupe ouvert, la Guinée-Conakry, qui sera sa première Coupe d'Afrique des Nations depuis des années. Le Mali, deux fois déjà troisième, qui va présenter un jeu avec une équipe expérimentée. Maintenant, la Côte d'Ivoire, qui nous a déçus durant les trois dernières Coupes d'Afrique des Nations. Ce serait aussi un atout pour cette équipe ivoirienne. Mais attendons de voir, dans ce groupe, le Cameroun, sans prendre le dessus sur les trois autres formations, mais une Coupe d'Afrique des Nations reste toujours une Coupe d'Afrique des Nations.
Merci beaucoup, Élisée. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle de Nzérékoré, la Guinée forestière. C'est Lamine Kaba. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Vous allez bien?
Ben, ça va. Merci beaucoup. Allez, avant de vous entendre, on va écouter Michel Dussuyer, le sélectionneur du Sili National de Guinée.
Oui, un groupe très relevé, avec composé de grandes équipes. Donc, un gros challenge pour nous, mais c'est aussi un challenge excitant parce que on aura à cœur de bien figurer contre ces équipes-là. Bien sûr, on ne part pas favori du groupe, donc on n'a pas la pression sur les épaules. On aura juste à cœur de créer la surprise. Mais il y a des derbies en perspective avec le Mali et la Côte d'Ivoire, qui sont des pays frontaliers.
Voilà, Michel Dussuyer, le sélectionneur du Sili National. Alors évidemment, Lamine, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe? Et éventuellement, on a peut-être en favori la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Vous pensez que le Sili peut-être créer la surprise?
dit, bien sûr, monsieur, c'est une poule morte, mais je crois bien, j'ai confiance sur le national cette année. Comme vous savez, on a fait le déplacement cette année en domicile. Comme vous avez vu, par exemple, on a fait le déplacement à Ouganda.
En Ouganda, à Marrakech.
À Ouganda, bien sûr, monsieur. Vous avez suivi notre match, mais personne ne peut dire que... On avait regardé cette match-là, il nous a battu sans caméra, bon, etc., etc. Maintenant, au retour, vous avez vu aussi, on a battu Ouganda 2-0. Mais vous êtes au courant aussi, le Messi Junior est là, il s'appelle tout simplement, Ibrahima Traoré. Et vous avez vu aussi notre meilleur attaquant, Tili National, Sakoba, Souma, le deuxième militaire de la CANAL.
Oui, Lamine, Lamine, vous restez avec nous. On va poser la question. On a un autre appel depuis Bamako. Eladj Birama Boni, bonsoir.
Bonsoir, c'est Birama Koni. Ouais.
Voilà, Koni. Alors, dites-moi, les Aigles du Mali, après évidemment les défaites catastrophiques face à l'Éthiopie, face au Malawi, est-ce que vous pensez que les Aigles vont répondre présents dans cette compétition?
Oui, tout à fait. Je pense que les Aigles vont répondre présents. Parce que si, hormis. Les Cameroun dans ce groupe, toutes les autres équipes se sont qualifiées comme second de leur groupe. La Côte d'Ivoire, non, pas sans mal, et tout comme la Guinée qui a entendu également comme le Mali la dernière journée pour pouvoir obtenir son billet pour la Coupe d'Afrique. Je pense que les Aigles ont leur mot à dire malgré que le groupe soit un groupe difficile à relever, mais c'est aussi comme ça quand tu veux prendre, aller à une grande compétition, il faut s'entendre à rencontrer les meilleurs.
Merci beaucoup Eladj de nous avoir appelé depuis Bamako, c'est au Mali. Je vous rappelle que le match d'ouverture entre la Guinée équatoriale et le Congo aura lieu le 17 janvier. La finale, ce sera évidemment le 8 février. Et les autres rencontres se dérouleront à Malabo, Mongomo, Bata et Ebiyibin. Un mot pour vous dire évidemment que la Coupe de la Confédération a livré son verdict ce week-end et les Égyptiens d'Al Ahly ont remporté cette Coupe en battant dans les arrêts de jeu 1-0 les Ivoiriens du Séoué San Pedro. Déception évidemment pour les Ivoiriens qui disputaient là leur première Coupe continentale. On va écouter Rigaud Gervais, l'entraîneur du Séoué.
On n'a pas eu la chance de marquer le but qu'on recherchait, malgré les nombreuses occasions qu'on s'est créées. Voilà, donc je pense que... Nous, on s'est dit que c'était Dieu qui l'a voulu. Alors, sinon, au vu des occasions, s'il avait voulu nous mettre le trophée, on aurait marqué. C'est une jeune équipe qui monte en puissance. Je pense que pour nous, on n'a pas à rougir, même si on était super du but, c'est de se réorganiser pour repartir de plus belle. Au fil des années, on va gagner en expérience et en maturité. On saurait gérer ces événements-là avec plus de maturité, mais il nous a manqué un brin de chance quand même. Il nous a manqué un brin de chance, un brin de réussite. La réussite n'était pas de notre côté ce jour-là. Je pense qu'on a fait un match digne d'une grande équipe. Je pense que c'est le brin de réussite qui nous a manqué ce jour-là. Parce que sinon, on avait tout pour pouvoir être sacré. La différence n'était pas. Il n'y avait pas de cas. Hein.
Voilà, Rigaud Gervais, forcément déçu, l'entraîneur du Séoué San Pedro. Un mot pour vous dire que le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu au Canada n'a pas gâté les équipes africaines, puisque évidemment les Ivoiriennes affronteront l'Allemagne et la Norvège, les Nigérianes seront opposées aux États-Unis et à la Suède. Quant aux Camerounaises, elles se fronteront aux tenants du titre, évidemment les Japonaises. On va également vous rappeler que les Angolaises d'Inter Clube, tenantes du titre, ont conservé leur titre en battant leurs compatriotes du Primeiro de Agosto 75 à 74, c'est du basket, c'est la 20e Coupe d'Afrique des champions et ça s'est déroulé en Tunisie à Sfax. Les Tunisiennes du CS Sfaxien ont justement pris la 3e place avec une victoire 75 à 61 face aux Nigérianes de First Bank. Voilà, ainsi s'achève ce Sporama. Merci à tous de nous avoir suivis. On va saluer à Boïcon, Bénin, Élisée Ongpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à bientôt.
On va faire un grand coucou à Jules Valentin Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
Voilà, on va vous rappeler que la Ligue des Champions, c'est demain. On va suivre le duel à distance entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour savoir qui va détenir le record du meilleur buteur dans la compétition. On va vous donner rendez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique pour suivre tous ces résultats évidemment. On va vous remercier de votre participation. Rendez-vous également sur voaafrique.com pour suivre toute l'actualité. Michel Joseph était à la mise en onde, Nicolas Pineau était à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine sportive à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Tous les lundis soirs, La Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de La Voix de l'Amérique.
Il est 19h30, temps